Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part aux grands titres du jour en ce lundi 11 juillet. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question de procréation assistée, de violence intrafamiliale, de la mère parfaite, du sifflet de sécurité pour la jante féminine, de l'arche de Noé et bien sûr, de la bonne nouvelle du jour. Débutons, mesdames et messieurs, par cette entrevue que la féministe Marjo Bonnet a accordée à Eugénie Bastier sur la plateforme du journal Le Figaro. Cette entrevue s'intitule « La PMA n'est pas un marqueur de gauche ». Et pour votre information, mesdames et messieurs, PMA signifie procréation médicalement assistée. Voici ce que nous dit Marjo Bonnet sur cette plateforme. Le mot « discrimination » ici ne convient pas, car on ne peut pas comparer les couples hétérosexuels dont un membre est stérile avec les couples de femmes qui ne le sont pas. Pour parler de discrimination, il faudrait que les deux situations soient comparables, ce qui n'est pas le cas ici. C'est intéressant, mesdames et messieurs, qu'une féministe va dire qu'on ne peut pas comparer un couple hétérosexuel dont la femme est stérile à un couple homosexuel féminin qui ont la possibilité, pour les deux femmes, d'enfanter. Je suis content, mesdames et messieurs, parce que savez-vous quoi? Si j'avais déclaré la même chose, j'aurais été étiqueté comme un homophobe. Et ça, c'est déplorable, mesdames et messieurs, parce que dès qu'on émet une opinion, spécialement si on est des gens de foi, on se fait étiqueter comme homophobe. Mais là, qu'une féministe le déclare, et je trouve ça drôlement pertinent, et ça devient une citation qu'on peut publier, qu'on peut commenter sans être étiqueté d'homophobe, parce qu'il s'agit de réfléchir sur les enjeux sociaux. Et c'est le rôle des grands titres du jour. Ce qu'elle va dénoncer également, c'est tout l'aspect de l'anonymat qui entoure justement la procréation assistée. Parce qu'elle va dire, si vous lisez bien cette entrevue, que l'enfant devient la victime de l'anonymat du donneur. Et c'est vrai, parce que l'enfant ne connaîtra jamais son père. Il n'y a pas d'engagement. C'est simplement un marchandage physiologique, une transaction physiologique, parce qu'il y a une insémination artificielle. Mais il reste que néanmoins, ça provient d'un être humain. Cet être humain-là est biologiquement le père de l'enfant. Et en plus, mesdames et messieurs, cet enfant-là, qu'il soit garçon ou fille, va avoir deux parents qui sont deux femmes. Il n'aura pas un père, alors que l'être humain a été conçu pour avoir un père et une mère. Alors, je vous invite à lire cet article, qui est intéressant et qui vaut la peine d'être lu, d'être réfléchi et d'être discuté avec les gens de notre entourage. Eh oui. Violence intrafamiliale, encore une fois, sur la plateforme du Figaro. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Violence intrafamiliale, un enfant meurt tous les 10 jours. Voici ce qu'a écrit Agnès Leclerc. En 2015, 36 enfants sont morts dans le cadre d'un homicide ou d'une tentative d'homicide de leur père ou de leur mère, soit un tous les 10 jours. Et 96 se sont retrouvés orphelins de l'un ou de leurs deux parents dans ces circonstances, selon le dernier bilan de la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, dévoilé fin juin. Dans 10 affaires d'homicide au sein du couple, les meurtres ont été commis sous les yeux des enfants mineurs, souligne également le rapport. Quel triste rapport, mesdames et messieurs. C'est une réalité qui se passe en France, mais il reste que néanmoins. Imaginez, quand un enfant voit son parent tuer un autre parent de ses propres yeux, quel dommage ça peut faire, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas idée. Moi, j'ai retrouvé ma femme sans vie. Et régulièrement, l'image me revient à l'esprit. Imaginez si vous voyez quelqu'un tuer devant vous, un de vos proches. Ça doit être terrible. Il y en a qui perdent leur mère dans des tristes circonstances. Mais il y en a d'autres qui essaient de jouer à la mère parfaite. C'est ce qu'on nous apprend sur la presse et c'est Evia Lévy qui nous parle de ce phénomène. Je vais tout simplement vous lire un extrait et je vous invite à lire le reste, qui vaut la peine d'être lu. Voici ce que nous dit Evia Lévy. Selon Camille Froidevaux-Métry, professeur de sciences politiques et auteur de « La révolution du féminin », aux éditions Gallimard, le vrai problème est la visibilité médiatique de ce modèle de maternité qui est aussi un produit marketing d'image idéalisée. Ces femmes sont aussi les propagandistes de cette perfection car elles s'approprient ces images en se mettant elles-mêmes sur scène, sur Instagram, dans des situations de mère idéale. Des images qui sont terriblement culpabilisantes et déprimantes pour les autres mères normales, dit-elle. Alors, en résumé, c'est qu'il y a des mamans qui montrent des images de la mère parfaite qui va au travail, qui fait des muffins pour les enfants, qui garde la maison en ordre, qui a le sourire aux lèvres, qui est mince, qui fait de l'exercice, etc. Et donc, ça donne une image d'une mère parfaite et ça culpabilise d'autres mères qui n'y arrivent pas. Alors, je vous invite à lire ça, mesdames et messieurs. C'est important parce que ça fait partie d'une des réalités de notre société contemporaine. Un sifflet pour faire fuir le harcèlement sexuel, c'est ce qu'on retrouve sur la plateforme du Devoir. C'est écrit par Jennifer Gonzalez Covarrubias en collaboration avec l'agence France Presse à Mexico. Qu'est-ce qu'on dit essentiellement? Eh bien, les grandes lignes, 5,5 millions, mesdames et messieurs, de personnes empruntent le métro chaque jour. Eh bien, ça se passe où? Eh bien, à Mexico. Et dans le métro de Mexico, il y a 1885 policiers qui sont là pour assurer la sécurité. Mais malgré ça, on nous apprend dans le Devoir, en 2015, 1800 agressions sexuelles dans un espace public ont été dénoncées, dont 24 % dans le métro, selon une enquête officielle. Donc, qu'est-ce qu'on donne aux femmes pour pouvoir prévenir des agressions? Eh bien, à ce moment-là, on va leur offrir un sifflet pour qu'ils puissent siffler et que les autorités, celles qui sont engagées pour la protection des femmes, puissent recevoir du secours. Il y a des wagons réservés uniquement aux femmes, mais il y a certains agresseurs qui réussissent à se faufiler assez rapidement et malheureusement qui vont exercer des attouchements sexuels. Il y a également des agentes dans le métro qui ont un gilet rose pour être identifiées et à la sortie du métro, il y a des taxis qui sont conduits par des femmes et qui sont de couleur rose. Avant de passer à la bonne nouvelle du jour, eh bien, une mission évangélique aux Jeux olympiques de Rio, c'est ce qu'on retrouve sur la plateforme du Journal de Montréal. Joanne Hulbert va traverser l'Atlantique dans une réplique de l'Arche de Noé qui a été financée par ses propres poches. Il va longer la côte brésilienne pour visiter justement différentes villes du Brésil. Ensuite, l'Arche va sillonner l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les États-Unis. Cette Arche est constituée, mesdames et messieurs, de 5 étages. Et savez-vous quoi? Elle est plus longue qu'un terrain de soccer. Et elle contient une salle de cinéma. On y retrouve une réplique en bois des animaux qui sont en couple. Et elle peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Alors, je vous invite à consulter la plateforme du Journal de Montréal pour lire l'intégrale de cet article. Et en terminant, tel que promis, la bonne nouvelle du jour. Eh bien, mesdames et messieurs, les Canadiens de Montréal ont confirmé le déménagement de leur filiale de la Ligue américaine à Laval pour le début de la saison 2017-2018. Donc, ce n'est pas cet automne, c'est l'automne suivant. Voici ce qu'on nous dit sur la plateforme de TVA Sports. Le propriétaire des Canadiens, Jeff Molson, a révélé que les partisans choisiront le nom de la nouvelle équipe par le biais d'un concours. Le tricolore transférera donc les Ice Caps de Saint-Jean en sol québécois. La filiale du tricolore évoluera dans un édifice de 10 000 places situé près de la station de métro Montmorency. Ça, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Mais c'est une moins bonne nouvelle pour l'Armada de Boisbriand, Blainville, parce que pour les gens qui recherchent du sport professionnel, du sport de haut calibre, spécialement sur la glace, eh bien, ça va certainement compétitionner l'équipe junior majeure. Eh bien, avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens qui sont reliés aux articles cités dans le cadre de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.